Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la collecte de données en source ouverte, l'OSINT, quoi. On s'appuie sur les sources du MOOC OSINT-FR. On va regarder un peu les techniques d'extraction, les outils gratuits et comment ça marche en pratique. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Ces méthodes semblent parfois compliquées, mais on va voir comment aborder concrètement la collecte d'infos publiques. On entend souvent parler d'enquête OSINT, c'est vrai. Mais comment on passe de l'idée générale à collecter vraiment des infos utiles sur le terrain? C'est ça la question.
Exactement. Et l'objectif, c'est pas de devenir développeur du jour au lendemain, hein. C'est plutôt de piger la méthode, la démarche, et de connaître quelques outils, quelques trucs accessibles qui peuvent déjà vraiment aider, poser les bases en fait pour une collecte qui soit à la fois efficace et rigoureuse.
Alors, on y va. Commençons par le commencement, comme on dit. Le web scraping, ça revient tout le temps. C'est quoi exactement ce truc?
Alors, pour faire simple, c'est juste automatiser la récup d'infos sur des sites web. Le web, c'est une mine d'or, on le sait. Mais chercher l'info à la main, page par page,
Oui, le copier-coller, l'horreur.
voilà. C'est vite fastidieux, voire impossible, s'il y a beaucoup de données ou si c'est très dispersé. Ou même si le contenu apparaît au fur et à mesure qu'on clique, tu vois.
Le contenu dynamique.
C'est ça. Donc le scraping, ça utilise des outils ou des petits programmes, des scripts, pour faire ce boulot de collecte automatiquement ou presque. C'est bien plus rapide et fiable qu'à la main.
D'accord. Une sorte d'automatisation de la collecte.
Et pourquoi c'est si utile en OSINT, d'après les sources qu'on a?
Plusieurs usages clés. D'abord, extraire vite fait de gros volumes de données, surtout quand il n'y a pas d'API propre, tu sais, pas d'accès direct et structuré aux données. Pense aux annuaires en ligne, les listes de publications, les catalogues.
Ok, pour les grosses listes.
Oui. Et aussi, ça permet de surveiller des changements. Par exemple, un nouveau nom qui apparaît sur un site, une info qui change.
Ah oui, pour la veille.
Exactement. Ça peut aussi aider à comprendre la structure d'un site, comment il est organisé. C'est un levier pour passer à l'échelle quand l'info est là, publique, mais énorme ou mal rangée. Mais attention, et ça, les sources insistent beaucoup dessus,
J'imagine, oui.
c'est puissant, donc ça implique d'être responsable. Faut penser au cadre légal et éthique tout de suite, dès le début.
Justement, comment on fait concrètement? Surtout si on débute, si on n'est pas un pro du code. Les sources parlent de différentes approches, j'ai vu.
Oui, il y a plusieurs niveaux, on va dire. Pour commencer facile, sans coder, il y a les extensions de navigateur. L'exemple donné, c'est webscraper.io. C'est une extension pour Chrome.
Ok.
L'avantage, c'est que c'est visuel. Tu cliques sur la page pour dire à l'outil, prends ce titre, prends ce prix, clique ici pour la page suivante. Pas de code.
Ah, ça, c'est pas mal.
C'est idéal pour des listes, du contenu qui se répète sur plusieurs pages, un annuaire, des articles de blog. Après, un cran au-dessus, tu as des outils en ligne. On parle de plateformes no-code ou low-code. Les noms qui reviennent sont Parsub, Octoparse.
D'accord.
Eux aussi ont des interfaces graphiques, mais ils gèrent des trucs un peu plus complexes. Justement, le contenu qui se charge avec du JavaScript quand tu scrolles ou tu cliques.
Ah oui, ça c'est un problème fréquent.
Voilà, ces outils arrivent souvent à gérer ça. Les versions gratuites ont parfois des limites, bien sûr, sur la quantité de données ou les fonctions avancées, mais ça dépanne bien. Et puis, pour le contrôle total, la flexibilité maximale, ben là, faut coder ses propres scripts.
Et là, on met les mains dans le cambouis.
C'est un peu ça. Le langage Python est très populaire pour ça. Les sources citent des bibliothèques comme Beautiful Soup.
Oui, j'en ai entendu parler.
Très utile pour analyser le code HTML de la page et extraire ce qui t'intéresse. Ou alors des frameworks plus complets comme Scrapy, qui est fait pour construire des robots de scrapping plus costauds pour des gros volumes.
Mais là, il faut des compétences techniques, clairement.
Oui, là, il faut savoir coder.
Cette progression est intéressante. L'outil comme webscraper.io, ça a l'air d'être une bonne porte d'entrée pour comprendre la logique sans se heurter au code direct.
Tout à fait. C'est super pour démarrer et pour piger les concepts. Visualiser ce qu'on veut, dire comment naviguer. Les sources sont claires, ça a ses limites, hein. Si le site est hyper complexe, s'il change tout le temps ou s'il y a de grosses protections anti-scrapping, ça peut coincer.
Logique.
Mais pour plein de cas courants en OSINT, genre récupérer une liste de participants sur le site d'une conférence, choper les infos d'un annuaire pro public, collecter des offres d'emploi, ben, souvent ça suffit largement. C'est vraiment concret comme approche.
Ok, donc le scraping, c'est un outil puissant pour extraire l'info des pages web. Mais les sources disent aussi, et tu l'as mentionné, que la boîte à outils OSNT, c'est plus large, et surtout qu'on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100.
Ah oui, ça c'est un point important des documents. L'efficacité, c'est pas qu'une question de budget-outil. Il y a de très bons outils gratuits ou avec des versions gratuites fonctionnelles. Deux autres exemples sont mis en avant. D'abord, Maltego, la version Community Edition, la CE.
Ah, Maltego, le fameux pour visualiser les liens, c'est ça, hein ?
Exactement. Les sources le présentent comme un standard pour ça. Son job, c'est de cartographier les relations entre les infos qu'on trouve. Personnes, emails, sociétés, sites web, adresses IP, comptes sociaux. Tu vois les connexions sous forme de graphes. C'est très visuel.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir des liens qu'on n'aurait pas vus autrement, j'imagine.
C'est exactement ça. Ça révèle des connexions indirectes. Ça marche avec des transforms. C'est comme des petits connecteurs qui vont chercher automatiquement des infos dans des bases publiques, WIS, registres, réseaux sociaux, et les ajoutent au graphe.
Et la version gratuite est utilisable ?
Oui, la Community Edition est gratuite. Elle a des limites, genre le nombre de résultats par transform, mais franchement, pour beaucoup d'enquêtes, c'est déjà très très puissant pour structurer et analyser l'info. L'autre outil, c'est Spiderfoot, la version open source, OSS.
Spiderfoot, ok. Et lui, il fait quoi ?
Lui, c'est plutôt l'automatisation de la reconnaissance. Tu lui donnes une cible, un nom de domaine, une IP, un pseudo, un email, un nom.
Une piste de départ.
Voilà. Et il lance tout seul plein de recherches dans énormément de sources publiques. DNS, WIS, moteurs de recherche, archives web, fuites de données connues, plateformes de code genre GitHub, réseaux sociaux. La version OSS, tu l'installes sur ta machine et je te sors un rapport web hyper détaillé, bien structuré, avec la source de chaque info. C'est top pour avoir une vue d'ensemble rapide et large sur une cible.
Intéressant cette complémentarité. On a donc Cetric, le scrapping pour extraire des données précises des pages.
C'est ça.
Maltego pour visualiser les liens entre toutes ces données.
Mm-hmm.
Et Spiderfoot pour automatiser la recherche initiale d'infos autour d'une cible. Ça couvre bien différentes phases.
Tout à fait. Et ça illustre bien une phrase des sources RAW. L'outil parfait n'existe pas. L'enquêteur avisé assemble les bons outils. Et c'est cette boîte à outils qui fait sa force.
C'est la combinaison qui compte.
Exactement. Il n'y a pas de baguette magique. La clé, c'est de choisir le bon outil pour la bonne tâche. Et surtout, de l'utiliser avec méthode. Comprendre ce qu'il fait, ses limites.
Justement, la méthode. Avoir les outils, c'est une chose. Mais comment on les articule ? Les sources proposent une démarche assez simple en 4 étapes. Surtout pour le scrapping, non ?
Oui, la méthode, c'est central. L'OSNT, c'est très pratique comme discipline. Pour le scrapping, les sources donnent une démarche en 4 temps qui insiste sur la rigueur. D'abord, étape 1, identifier la bonne page, la cible, et vérifier la légalité.
La base.
Essentiel. Trouver la page qui contient l'info, annuaire, registre, liste. Mais avant de scraper, le point crucial, répéter partout, vérifier si on a le droit. Lire les CGU, les conditions d'utilisation du site. Et penser au RGPD si ce sont des données personnelles.
Très important, ça.
Ensuite, étape 2. Analyser la structure de la page. Comprendre comment l'info est organisée dans le code HTML. Les sources recommandent d'utiliser l'inspecteur du navigateur F12 pour repérer les balises HTML, les divs, tables, span et les attributs classe, ID qui contiennent l'info qu'on cherche.
Repérer les bonnes étiquettes, en quelque sorte.
C'est ça. Il faut noter ces sélecteurs. Ils serviront pour l'outil. 3e étape, utiliser l'outil de scrapping, par exemple webscraper.io. Là, tu crées ce qu'ils appellent un sitemap, c'est le plan d'action, URL de départ, quels éléments extraire avec les sélecteurs trouvés avant, comment passer d'une page à l'autre.
On lui donne la recette.
Voilà. Puis tu lances la collecte. L'outil parcourt le site et enregistre les données, souvent en CSV ou JSON. Et 3e étape, cruciale, organiser les données. C'est bien beau d'avoir extrait, mais...
Il faut que ce soit utilisable.
Exactement. Une citation dit « l'extraction brute ne suffit pas ». Les données sont souvent sales. Espace en trop, formats différents, doublons. Faut nettoyer tout ça et ensuite les organiser proprement. Dans un tableur bien fait, genre Google Sheets, ou une petite base de données comme SQLite. Pour pouvoir trier, filtrer, analyser. C'est là que l'info devient vraiment utile.
Cette méthode en 4 temps, elle paraît assez logique. On peut l'appliquer à pas mal de sources, j'imagine. Des registres d'entreprises, des forums, des archives de presse.
Oui, tout à fait. C'est une bonne trame de base adaptable à beaucoup de sources web, publiques et structurées.
Un point qui revient sans cesse dans les sources, c'est la responsabilité, l'éthique. On sent que c'est pas juste une question technique.
Ah mais c'est fondamental, hein. Et les documents insistent vraiment là-dessus. Utiliser ces outils, ça ne donne pas tous les droits, loin de là. Il y a des garde-fous clairs. D'abord, les fameuses CGU, les conditions générales d'utilisation des sites.
Celles qu'on ne lit jamais.
Eh ben, en OSINT, il faut les lire. Beaucoup interdisent le scrapping. Les ignorer, c'est risquer de se faire bloquer son IP, voire pire si le site considère qu'il y a un préjudice. Les sources mentionnent aussi le fichier robots.txt. C'est un fichier qui donne des indications aux robots, comme Google, sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas explorer. Ce n'est pas une interdiction légale pour le scrapping, mais le respecter, c'est une question de bonne pratique, de politesse.
D'accord. Donc, CGU et robots.txt.
Ensuite, le cadre légal strict. Surtout le RGPD en Europe pour les données personnelles. On ne collecte pas des infos sur des gens n'importe comment, et aussi le droit d'auteur sur le contenu. Scraper, ça ne veut pas dire qu'on peut réutiliser comme on veut.
Logique.
Et enfin, l'éthique, la bienséance technique. Ça veut dire ne pas bombarder les serveurs du site. Un scrapping trop rapide pour le ralentir pour tout le monde. Faut être respectueux.
Limiter la vitesse des requêtes, par exemple.
Oui, et ne collecter que ce qui est vraiment nécessaire, pas tout aspirer juste pour voir. Et être responsable de ce qu'on fait des données après, pas de diffusion sauvage, surtout si c'est sensible. Il y a aussi d'autres conseils de bon sens dans les sources, bien comprendre son outil, documenter sa collecte, source, date, méthode, hyper important pour la traçabilité, séparer sa navigation perso de ses enquêtes.
D'utiliser une machine virtuelle ou un navigateur dédié, par exemple.
Idéalement, oui. Et toujours vérifier la qualité des données. Le scrapping n'est pas magique, il peut y avoir des erreurs. Faut garder un œil critique.
Une phrase résume bien ça, je crois. En OSINT, ce n'est pas la vitesse de collecte qui compte, c'est la qualité des données et la rigueur du processus.
C'est exactement ça. La qualité et la méthode priment sur la quantité brute. Faut que ça soit fiable et traçable.
Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que la collecte OSINT, même avec du scrapping, c'est pas forcément réservé aux ultra-geeks.
Non, pas nécessairement.
Avec une bonne méthode et des outils accessibles, gratuits même, on peut déjà faire des choses intéressantes.
C'est ça l'idée principale qui ressort. Les points clés, c'est prat en action, bien comprendre la source avant de collecter, choisir et utiliser les outils intelligemment, organiser et nettoyer les données rigoureusement, et surtout, toujours, toujours agir dans un cadre légal et éthique clair. Les outils démultiplient nos capacités, c'est sûr, mais l'analyse, la rigueur, le jugement, ça reste humain. Et c'est ça qui fait la valeur du travail.
On a vu pas mal de techniques et d'outils aujourd'hui pour collecter l'info. Mais bon, le web, ça bouge tout le temps. Les sites sont de plus en plus complexes, protégés.
Effectivement. Et ça, ça amène une réflexion intéressante pour finir qui est un peu en filigrane de tout ce qu'on a dit. Face aux sites qui utilisent massivement du JavaScript et qui rendent le scrapping HTML classique plus difficile.
Oui, où l'info n'est pas directement dans le code source initial.
Voilà. Et face aux protections anti-bots, les CAPTCHA, les analyses de comportement qui deviennent de plus en plus fines, comment l'enquêteur OSINT doit s'adapter? La question, c'est plus seulement de maîtriser les outils d'aujourd'hui. C'est de développer une veille technique constante, une agilité pour comprendre et intégrer les nouvelles méthodes, les nouveaux outils.
Un apprentissage continu, en fait.
Exactement. Tout en continuant de naviguer les questions éthiques que ces nouvelles techniques peuvent soulever. C'est sans doute ça, le défi permanent de la collecte OSINT pour l'avenir. Cette adaptation constante.